cours de métaphysique par le père Philippe. Saint Joseph, le 22 novembre 84.
Nous allons continuer à saisir comment la découverte de la source propre de ce qui est, donc de la réalité existante considérée sous le point de vue de l'être. L'intelligence interroge pour savoir ce qu'il y a de fondamental dans la réalité, ce qu'il y a de premier dans la réalité. Et l'intelligence découvre alors cette source, ce principe propre de ce qui est. Elle le découvre comme un au-delà de toutes les déterminations. Alors c'est là où il faut bien comprendre, hein, comment ce principe propre dans l'ordre de ce qui est, à la différence de la nature, de l'âme, est comme un au-delà de cette détermination, comme une source dans l'ordre de l'être. Au fond, autrement dit, comme l'être est au-delà de la détermination, et ceci, nous pouvons le saisir vite à partir des catégories, à partir des 10 déterminations de l'être, comme l'être est un au-delà des catégories, la source de l'être, le principe propre de l'être, est donc nécessairement au-delà de toutes les déterminations. Dans ce sens-là qu'il y a un double dépassement des catégories. Le premier dépassement des catégories, c'est le point de vue du sujet. Pierre, quand vous dites Pierre est homme, puisque homme, c'est ce qui détermine premièrement ce qu'est Pierre. Et toutes les autres catégories, toutes les autres déterminations sont relatives à homme. Le dépassement des catégories, c'est d'abord le sujet, Pierre, ce qui existe, le todeti en grec, ce qui existe. Et le second dépassement, c'est le point de vue de la substance, l'ousia, saisie comme source propre de ce qui est du point de vue de l'être. Nous avons vu comment y parvenir par la voie inductive, je n'y reviens plus, parce qu'il faut quand même avancer. Nous avions déjà vu ça l'année dernière, pour ceux qui suivaient le cours. Mais c'est sûr que c'est difficile pour nous, étant donné le contexte philosophique dans lequel nous sommes, étant donné ce contexte des idéologies. Les idéologies nous replongent, si vous voulez, dans une attitude descriptive de ce que nous pensons du vécu intérieur. Et étant donné l'idéologie du positivisme, nous avons une peine énorme à comprendre ce dépassement. Autrement dit, nous avons beaucoup de peine à comprendre ce que c'est que l'induction. Alors, il faut redécouvrir ce qu'est l'induction, une démarche qualitative de l'intelligence. C'est pour ça que je vous avais dit, pour nous aider, il faut prendre la voie inductive de l'âme, la découverte de l'âme. C'est plus facile de découvrir l'âme humaine que de découvrir l'ousia, la substance. C'est plus facile parce que nous avons une expérience immédiate de notre âme par l'intériorité, tandis que vous n'avez pas d'expérience immédiate de la substance. La substance, je ne peux pas l'expérimenter. Si je pouvais l'expérimenter, ce serait quand même quelque chose qui nous aiderait. Or, je n'ai pas d'expérience immédiate de la substance. J'ai une expérience immédiate de mon âme. D'une manière confuse, hein, j'ai quand même une certaine expérience par l'intériorité. Quand je pense, quand j'aime, quand je ressens profondément quelque chose, j'ai une expérience de cette intériorité. Et cette intériorité s'oppose à l'aspect extérieur. Quand vous pensez, vous savez très bien que même si votre voisin vous regarde, il ne peut pas arriver à saisir ce que vous pensez. Votre pensée est comme un secret. Quand vous portez des secrets en vous, des secrets d'ordre affectif, vous comprenez qu'il y a en vous une intériorité toujours plus grande, toujours plus profonde, par le point de vue de l'amour. Et cette intériorité me montre justement toute la différence qui existe avec le point de vue extérieur. Mais nous savons très bien que cette connaissance affective de l'âme n'est pas la vraie connaissance philosophique de l'âme. Mais ça m'y conduit, c'est déjà beaucoup. Tandis que quand il s'agit de l'ousia, la seule chose, la substance, la seule chose dont j'ai l'expérience quasi immédiate, c'est le sujet. Vous voyez, alors je pourrais dire que j'ai l'expérience du sujet Pierre. Pierre ou moi-même. Je suis moi-même un propre sujet d'une quantité de détermination. Pierre est intelligent, Pierre a telle qualité, Pierre, et ainsi de suite. Hein. Toutes les 10 attributions classiques qui regardent Pierre. Alors, Pierre, j'ai une certaine expérience de ce sujet, comme j'ai une certaine expérience de mon âme comme source de vie, source de mes opérations. Mais ni Pierre, sujet, ni l'âme ne me fait découvrir ce que c'est que la substance au niveau de la vie première, au niveau de l'être. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce que justement, le sujet se distingue de toutes les autres attributions. Il n'est pas ses attributions, mais il les reçoit, mais il n'en est pas la source, nécessairement, comme sujet. Tandis qu'au contraire, la substance est source de toutes les déterminations. Et c'est pour ça que je dis principe propre selon la forme, pour bien montrer le dépassement. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire, vous voyez, que j'ai là deux expériences qui m'aident beaucoup à comprendre ce que représente la substance comme source propre de toutes les déterminations. La troisième expérience que je pourrais mettre, c'est l'amour d'amitié. Plus exactement, l'expérience de l'amitié. Et ça aussi, j'ai une expérience immédiate là. L'ami que je saisis à travers l'amour d'amitié, l'ami n'est pas la substance. Je saisis la personne de l'ami. Et la personne de l'ami n'est pas la substance. Il y a expérience d'un sujet, expérience de l'âme, expérience de la personne. C'est peut-être pour moi la triple manière d'essayer de saisir cette analyse philosophique. Cette analyse philosophique de la substance, la découverte donc de l'ousia, de cette substance, de cette source. Alors, comprenons ce dernier point rapidement, je ne l'ai pas vu avec vous, je ne fais que l'évoquer ici. Hein. L'ami me permet de découvrir la personne humaine. L'expérience que j'ai de la personne humaine, c'est toujours en premier lieu par l'ami, par l'amour d'amitié. Eh bien, cet amour d'amitié qui me fait découvrir l'ami et qui me fait découvrir la personne humaine, me fait découvrir dans la personne humaine quelque chose qui est au-delà de l'amour. Quelque chose qui est au-delà de l'amour. L'ami que je saisis par l'amour que j'ai pour lui, L'ami n'est pas entièrement relatif à moi. Il y a en lui une autonomie personnelle. Il m'échappe. Et c'est toujours la souffrance d'un amour qui n'est pas suffisamment lucide et qui est trop passionnel. Parce qu'on voudrait accaparer l'ami. On voudrait le posséder. Et en le possédant, on tuerait l'amour. Hein. Alors on dit, oh, je ne veux pas du tout le posséder. Mais de fait, on vit comme si on voulait le posséder. C'est très très curieux, là. L'illogisme de l'amour. Hein. C'est extraordinaire. Il faut être lucide à l'égard de ça. Il faut être très lucide. Mais il y a un illogisme affolant. C'est qu'on dit, mais non, je veux son autonomie. Et on fait tout pour le posséder. C'est-à-dire pour le mettre totalement relatif à moi. Et dans la mesure où il est relatif à moi, il n'est plus l'ami. Puisqu'il n'est plus le bien qui me dépasse et vers lequel je suis relatif. Je suis relatif à mon ami et je veux l'accaparer. Pourquoi ? Parce que l'amour, concrètement, l'amour spirituel qui atteint l'ami, est toujours lié à un amour passionnel. C'est tout le sujet. C'est la très grosse différence avec l'intelligence. L'intelligence a cette lucidité de se distinguer tout de suite de la sensation. Mais je sais que j'ai beaucoup de peine de distinguer l'intelligence de l'imaginaire. C'est pas si commode que ça, de distinguer l'intelligence de l'imaginaire. L'imaginaire est de l'ordre de la représentation, l'intelligence est de l'ordre de la signification. Je peux arriver progressivement, et la philosophie a pour but, hein, au fond, c'est un des buts de la philosophie, de me rendre un peu lucide dans mon intelligence. C'est-à-dire de me rendre un peu plus intelligent. N'est-ce pas ? Et donc d'être un peu lucide et de discerner le domaine du sensible, le domaine du sensible externe, le domaine du sensible interne, l'imaginaire, qui est de l'ordre de la représentation, et le domaine de l'intelligence, qui est le domaine de la signification. Pour ça, il faut une certaine application. Il faut être attentif à réfléchir. Parce que quand vous vous laissez rêver, le rêveur ne connaît rien. Il se laisse emporter par l'imagination. Mais il n'est pas attentif à la vie de l'esprit. C'est très très curieux ça. Et c'est la très grosse différence. Hein. Le rêveur, il est un planeur. Va comme je te pousse. On passe d'un nuage à l'autre. C'est ça, alors on est planeur. On est dans l'ordre de la représentation. Pas artistique, de la représentation, des souvenirs. On se laisse balancer. Tandis que quand on pense, alors ça c'est la signification. Alors on est attentif. L'intelligence implique l'attention, pas l'imagination. L'imagination, on se laisse pousser. On se laisse conduire par le vent d'est ou d'ouest, du nord ou du sud. Alors le sud a l'avantage d'être plus chaud que le nord. Il y a des imaginations qui nous mettent dans un état euphorique et des imaginations qui nous mettent dans un état glacial. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de l'intelligence, on est au-dessus. C'est pour ça que c'est toujours serein, l'intelligence. On saisit la signification. C'est très très curieux ça. Donc on peut distinguer, on peut arriver à discerner ça. Tandis que du côté de l'amour, vous ne pouvez pas dire « J'aime spirituellement, la passion est au niveau imaginatif, je la laisse tomber. » Quand nous aimons avec tout nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans tout amour, il y a toujours un élément passionnel. Et c'est pour ça que même dans un amour spirituel de l'amour d'amitié, où on veut aimer l'ami pour lui-même, si on ne fait pas grande attention, la passion reprend tout de suite. C'est très difficile, ça met du temps avant de purifier l'amour d'amitié. Il ne faut pas croire que ça se fait tout seul. Il y a des conversions qui doivent se faire tous les jours. On se convertit tous les jours à un amour spirituel. Pour ne pas laisser la passion nous reprendre. Parce qu'il suffit que le soir, on dise oui, maintenant j'ai compris. Puis le lendemain matin, ça reprend. Et alors on reprend possession. Et l'amour passionnel, c'est possessif. Alors à la place d'être relatif à l'ami, c'est l'ami qui doit être relatif à nous. Et à ce moment-là, on tue l'amour d'amitié. La passion tue l'amour d'amitié. Parce que c'est insupportable pour l'ami d'être possédé. S'il a un peu de dignité. C'est insupportable parce qu'on le traite à ce moment-là comme un objet. Comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on traite relatif à nous-mêmes. Alors c'est très très bien quand on est euphorique. Mais dès qu'il y a quelque chose qui n'est plus euphorique, alors ça devient insupportable. Et ça explique comment l'amour passionnel passe si facilement à la haine. C'est-à-dire à l'opposition. Parce que la haine, c'est l'opposition. Je ne veux plus te voir. Laisse-moi tranquille. N'est-ce pas ? C'est l'opposition. On se met dans. Alors qu'au point de départ, on se dit, oh, comme je suis heureux de te voir. Oui, très très bien. Tu as des fleurs hein, pour se voir. Alors ça, c'est l'amour passionnel qui possède au-delà du respect. Seul l'amour spirituel respecte l'autonomie. Donc on reconnaît que celui qu'on aime a une personne et une autonomie. Et je découvre cette autonomie à travers l'amour d'amitié. Et dans l'amour d'amitié, je découvre cette autonomie. C'est-à-dire, je découvre que mon ami est une personne. Et que je l'aime en fonction même qu'il est une personne. Je l'aime pour lui, et non pas pour moi. C'est une petite distinction très facile à faire, très difficile à vivre. N'est-ce pas ? Mais très facile à faire, c'est évident. On fait ça tout de suite, et on est tous d'accord. C'est ça qui est le bon. Et quand il s'agit de vivre, on voit que tous, on a une peine énorme à dépasser cet amour passionnel. On ne doit pas le tuer, mais on doit le purifier pour rêver un amour spirituel, pour aimer l'autre pour lui-même. Eh bien, quand j'aime l'autre pour lui-même, je vois bien que mon amour n'est pas adéquat à sa personne. Si mon amour était adéquat à sa personne, il n'y aurait pas de difficulté. Je le respecterais tout le temps. Mais mon amour n'est pas adéquat à sa personne. Parce que d'abord, il y a l'amour sans passionnel qui veut accaparer. Et puis deuxièmement, l'amour spirituel n'arrive pas à la substance, principe d'autonomie. La preuve, c'est qu'un ami que je peux aimer profondément, il échappe à moi. Il échappe à mon amour. Il peut mourir. Terrible, c'est le fait. Et donc je vois que son autonomie substantielle m'échappe. Si mon amour était adéquat à son être, il ne mourrait jamais. Tant que je l'aime. Ce serait impossible. Parce que l'amour d'amitié veut la présence. Et la mort, c'est la suppression de la présence. Et donc la mort montre que l'amour d'amitié n'est pas adéquat à l'être de l'autre, de la personne. Il y a donc quelque chose qui est un au-delà. Alors quel est cet au-delà de l'amour d'amitié ? C'est justement cette autonomie dans l'ordre de l'être. La personne a une autonomie dans l'ordre de l'être. L'ami a une autonomie dans l'ordre de l'être. Et sur quoi repose cette autonomie ? Ça repose justement sur son être dans ce qu'il a de plus fondamental. Et son être dans ce qu'il a de plus fondamental, c'est ce qu'on appelle la substance. Vous voyez, par l'autonomie de la personne, découverte par l'ami, je découvre qu'il y a quelque chose qui est au-delà de mon amour. Mais c'est très important aujourd'hui de comprendre cela par rapport à toute la philosophie qui serait d'ordre purement du vécu, en montrant que l'être est au-delà du vécu. L'amour, c'est du vécu. L'intelligence, c'est du vécu. Quand je dis l'amour, c'est du vécu, faisons attention, hein, parce que même l'amour est au-delà du vécu. Même l'intelligence est au-delà du vécu. Ça, c'est un autre problème. Mais ce serait très important à voir pour l'ordre de la philosophie féminologique, qui regarde uniquement le vécu. Et déjà dans l'amour, il y a un au-delà du vécu. Déjà dans la connaissance, il y a un au-delà du vécu, parce que la connaissance implique un jugement. le vécu se ramène à l'appréhension. Et le vécu du côté de l'intelligence, du côté de l'amour, se ramène à ce qui, dans l'amour, est le reflet, la présence de l'ami en moi. Mais la présence de l'ami en moi n'est pas l'ami. Autrement, je me contenterais tout simplement de réfléchir à mon ami et je n'aurais pas besoin du tout de le voir. Ce serait merveilleux. Hein, j'aurais besoin de sa photographie. Ta photographie me suffit. Oui, c'est merveilleux. Ta photographie me suffit, mais pas du tout. Regarder quelqu'un qu'on aime, vous voyez, c'est de l'ordre de l'appréhension. Faites l'analogie et je crois que ça aide beaucoup à comprendre comment le vécu n'est pas l'amour et comment le vécu n'est pas l'intelligence. Parce que le jugement est plus que l'appréhension. Et l'amour d'amitié atteint l'autre dans un jugement d'existence. Tandis que le vécu de l'amour d'amitié, c'est uniquement ce que l'ami est présent en moi. Je l'accueille, il est présent en moi. Donc ça, c'est du vécu. C'est le vécu de l'amour d'amitié. Mais le vécu de l'amour d'amitié est l'analogue à l'appréhension par rapport au jugement. Alors, ceci nous permet, voyez, de comprendre comment la personne qui est dans l'ordre de l'être, qui est l'autonomie de l'ami, implique quelque chose d'autre, un dépassement qui est de l'ordre de l'être. Je ne peux pas saisir l'autonomie de l'ami sans découvrir la substance. Qu'il y a en lui quelque chose de fondamental et de premier, qui est premier par rapport à mon amour, vous voyez. Avant que j'aime cette personne, mais elle existait, et j'ai toujours envie de croire qu'avant que je l'aime, elle n'existait pas. Ce n'est qu'à partir du moment où je l'ai aimé que cette fleur s'est épanouie. Avant, c'est un bourgeon. Mais il s'est épanoui à mon soleil, n'est-ce pas? Grâce à moi, il s'est épanoui. Il est devenu merveilleux. Voyez l'amour extraordinaire. Il s'est épanoui, c'est ouvert. Alors, on confond cette éclosion que fait l'amour avec l'être profond de l'amour. Et cette confusion fait qu'on ne respecte pas l'autre comme il est. Parce qu'il faut respecter l'autre dans son autonomie. Mais j'insiste un peu pour faire comprendre comment ces trois voies, parce que je crois que ce sont les trois voies qui nous conduisent à la substance. On pourrait en ajouter une autre, hein, serait l'œuvre d'art. Parce que là aussi, on verrait que l'œuvre d'art, c'est très bien, ça transforme la matière, mais qu'il y a quelque chose de radical que l'œuvre d'art suppose, à cause du travail. Ma parole n'est pas créatrice, et mon coup de pinceau non plus. Il est créateur de quelque chose, mais il n'est pas créateur de la réalité. Alors il y a quelque chose qui résiste. Et alors ce serait par le point de vue de la matière, je pourrais comprendre qu'il y a quelque chose qui résiste. Vous voyez, au fond, toutes ces voies-là montrent comment la découverte de la source de ce qui est toujours un au-delà de ce qui est immédiat. Et c'est ça la très grosse difficulté qu'on a pour la philosophie première, pour la métaphysique. La métaphysique n'est pas quelque chose qui est des données immédiates. La métaphysique présuppose tout le temps une attitude d'un dépassement. Dépassement des catégories, des 10 catégories. Dépassement du sujet. Dépassement de l'âme. Dépassement de l'amour d'amitié. Dépassement du travail artistique et de l'œuvre. Je crois que c'est suffisant pour bien situer ce grand dépassement dans l'ordre de l'être. Et je crois que c'est intéressant pour nous de voir que nous saisissons ce dépassement dans des perspectives différentes. Parce que c'est des perspectives différentes. Pour certains, c'est vraiment, la métaphysique, c'est vraiment le dépassement de l'œuvre artistique, puisqu'ils sont habitués à comprendre ce que c'est que l'œuvre artistique. D'autres, c'est l'amour d'amitié. Et chaque fois, on comprend la nécessité. Je n'ai pas le droit de le laisser tomber, ce dépassement. Je dois essayer de comprendre ce dépassement dans l'ordre de l'être, si je veux aller jusqu'au bout de ma recherche philosophique. Ayant découvert ce que c'est que l'ousia, comme principe, comme source propre de toutes les déterminations, comme source radicale de l'autonomie de la personne, comme source radicale de la matière que je travaille au point de vue de l'œuvre d'art, immédiatement, il y a une division dans ce qui est, qui se crée par cette découverte de l'ousia. C'est la première division dans l'ordre de ce qui est. Je découvre cette source, l'ousia, et je reviens à toutes les autres déterminations. Et je peux dire que l'ousia, la substance, cette source radicale, elle n'est pas la relation. Elle n'est pas la qualité. Elle n'est pas la quantité. Elle n'est pas l'action. Elle n'est pas la passion. Elle n'est pas le lieu. Elle n'est pas le temps. Toutes ces déterminations que je connais bien, toutes ces déterminations sont distinctes de la substance. Et cependant, il y a un lien entre la substance et la relation, entre la substance et la qualité, entre la substance et la quantité, entre la substance et l'action et la passion. Et c'est cela que nous devons essayer de comprendre maintenant. Quel est ce lien entre la substance et toutes ces déterminations ? Alors, pour bien comprendre ce lien, il faut d'abord saisir que cette source radicale au niveau de ce lien se donne à moi, puisque j'ai saisi à partir de moi-même ou à partir de l'ami, se donne à moi toujours comme une source liée à une quantité de détermination. Autrement dit, ayant saisi le esti, ce qu'est la substance, je dois me poser la question qui pose, c'est-à-dire comment cette substance existe-t-elle ? Toujours les deux interrogations. Il faut bien distinguer, puisque le positivisme, justement, ne les distingue plus. Donc, nous devons bien les distinguer. Nous avons essayé de saisir ce qu'est la substance, c'est-à-dire cette source cachée. C'est une source cachée. C'est une source cachée que seule l'intelligence saisit. Je la saisis à travers ses manifestations, je la saisis dans ses manifestations, mais il y a un noyau fondamental que l'intelligence seule saisit. Maintenant, j'essaie de comprendre comment cette substance, comment cette source se trouve réalisée. Voilà. Toujours moi-même, hein, la personne humaine. C'est l'homme qu'on regarde. Ne regardez pas dans une feuille de papier, n'est-ce pas ? Regardez la substance telle qu'elle se trouve réalisée en vous. Alors, cette substance se trouve réalisée dans un état individuel. Autrement dit, nous avons maintenant ce problème très important à saisir, l'individuation de la substance. Il y a en moi une source d'autonomie. Je suis distinct des autres par cette source d'autonomie. Mais cette source d'autonomie, elle se trouve réalisée d'une manière extrêmement complexe. C'est vrai. Cette source d'autonomie, elle se trouve réalisée liée aux qualités, liée aux relations, liée au monde matériel, à la quantité. Tout ça, je le sais, fait partie de mon être. Mon être, c'est tout cela. Quand je perds 30 kilos, il y a quelque chose de moi qui est liquéfié. Parce que j'ai perdu 30 kilos. Si au contraire j'en augmente de 5 kilos, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a quelque chose de mon être qui s'est amplifié. c'est quand même moi. Ça fait partie de mon corps. Mon corps, c'est mon être. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est moi-même. C'est moi-même, non pas dans ce qu'il y a de premier et d'essentiel. Ce qu'il y a en moi de premier et d'essentiel, c'est mon âme spirituelle, c'est ça qui est premier et essentiel, c'est ça qui est ma substance, mais il y a tout le reste. Qu'est-ce qui, à travers toutes ces déterminations, me permet de comprendre comment je me distingue des autres? Problème de l'individuation, d'une façon classique. Le problème de l'individuation, c'est ça. Qu'est-ce qui me distingue des autres? Et c'est le problème du pauvre, ça, du comment. Comment je me distingue des autres? J'ai saisi mon principe d'autonomie, la substance, comment je me distingue des autres? Parce que c'est bien évident que je suis à la fois relatif aux autres et je suis distinct des autres. Alors, première question qu'on doit se poser, est-ce qu'on se distingue des autres par nos relations? Je dirais non. Les relations que j'ai avec les autres sont des relations de similitude ou des relations de dissimilitude. Ce sont des relations de sympathie ou d'antipathie. C'est bien évident. Les atomes crochus, avec certains on s'entend tout de suite, à certaines heures du jour. Avec d'autres, on s'entend très difficilement à n'importe quelle heure du jour. N'est-ce pas ? C'est très très curieux, mais c'est comme ça. Il y a des relations de similitude. On se rencontre. L'âme sœur. Oh, j'ai retrouvé quelqu'un. J'ai cherché toute ma vie. Là, c'est vraiment extraordinaire. Et dès que je l'ai vu, immédiatement, j'ai compris. Alors, les relations présupposent déjà la distinction. Et présuppose les qualités. Donc c'est pas la relation qui me distingue des autres, ça présuppose autre chose. Alors est-ce que ce sont mes qualités? Bien évident, les qualités jouent un rôle très important pour me situer par rapport aux autres. Je suis plus capable de comprendre que les autres. La capacité intellectuelle, visiblement, est plus grande que celle de mon voisin. Ou l'inverse, visiblement, est moindre. Est-ce que c'est ça qui me distingue? Ça fait partie de la distinction. Je ne peux pas nier. J'ai des qualités intérieures. Je suis plus vertueux. Mon voisin, il est d'un orgueil fou, tandis que moi, je suis humble. Là, je me distingue tout de suite de mon voisin, c'est bien évident, une qualité tout à fait différente. Ça explique, hein, à cause de son orgueil, que c'est très très difficile de l'atteindre. Parce que je ne peux l'atteindre qu'en rampant et en me laissant dominer. Alors là, très bien. Mais dès que je veux tout simplement exprimer quelque chose qui est de moi, et que lui ne pense pas, ça ne va pas. C'est vrai que ça joue. Est-ce que c'est ça? Ah, il y a quelque chose de plus immédiat. La figura. Parce que les qualités intérieures, vous comprenez, c'est tellement difficile de les mesurer. Vous mesurez l'intelligence de votre voisin en fonction de votre intelligence. C'est pas honnête. Vous mesurez les qualités du cœur de votre voisin en fonction de votre manière d'aimer. C'est pas honnête. C'est relatif à vous. C'est comme si vous étiez la mesure de l'amour ou la mesure de l'intelligence. Oh, vous ne l'êtes pas. Donc, au fond, vous ne pouvez pas distinguer vraiment ce qu'est votre voisin par le point de vue de l'intelligence et par le point de vue de l'amour. Puisque c'est en référence avec vous. Donc c'est juste l'inverse. Vous mesurez la qualité d'humilité de votre voisin en fonction de votre humilité. Vous savez bien, on juge la vertu en fonction d'un jugement affectif par mode de connaturalité. Si vous n'êtes absolument pas humble, vous ne discernerez jamais l'humilité chez le voisin. C'est curieux, ça. Si vous n'êtes absolument pas tempérant, vous ne distinguerez absolument pas la vertu de tempérance du voisin. Les vertus se distinguent par une certaine connaturalité. C'est extrêmement curieux, ça. C'est très intéressant parce que ça montre les limites, hein. C'est pour ça que vous devez toujours faire attention à quelqu'un qui porte un jugement sur un autre. Ad modum recipientis, hein. Si vous avez un récipient tordu, le voisin sera tordu. Ça, c'est bien évident. Si au contraire, vous êtes euphorique, un miroir grossissant, toute la communauté sera dans le miroir grossissant. Si vous avez un miroir qui diminue, tous ceux qui sont proches de vous seront dans cet entonnoir, plus ou moins proche du fond. C'est extrêmement curieux. Quand il s'agit des qualités, vous jugez toujours affectivement. Alors, qu'est-ce qui distingue un être d'un autre? Qu'est-ce qui me permet de voir qu'un être est distinct d'un autre? Je crois que c'est la figura. Je le dis en latin, je vais essayer de traduire. La figura, c'est bien une qualité, nous le verrons. La figura, c'est la physionomie d'un être. C'est son originalité qui se traduit à travers le point de vue quantitatif. C'est sa démarche. Et la démarche du vieux curé, c'est la figura, c'est la démarche du vieux curé. La démarche d'un bon père jésuite, n'est-ce pas? La démarche d'un dominicain. Bon, alors la figura. Oui, on fait une caricature. Une figura. Une caricature, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans une caricature? Qu'est-ce qu'on veut quand on fait la caricature de quelqu'un? On met en pleine lumière son originalité. Qui le flatte ou qui ne le flatte pas du tout. Mais vous voulez le distinguer des autres. Et donc vous poussez jusqu'au bout la note de l'individuation. La caricature, c'est pousser l'individuation à l'extrême et montrer qu'il est unique quant à son nez. Il a un nez qui fait que tous les autres nez disparaissent. Et vous voyez qu'à ce moment-là, votre jugement est juste parce que en regardant le nez du voisin, vous ne regardez pas votre nez. Normalement. Tandis qu'en jugeant de la vertu du voisin, vous jugez de votre propre vertu. C'est très curieux, ça. Ce qui montre bien que la figura a une objectivité unique. Quand vous regardez le nez du voisin, ou les yeux, parce qu'il a de beaux yeux, ben vous n'avez pas vu vos yeux en même temps. C'est très curieux. Il y a une objectivité du côté de la figura, parce que les yeux, le nez, les mains, il y a des gens qui sont séduits par les mains. Oh, quelle belle main! Vous savez bien, c'est une des sœurs dominicaines parlant de Saint-Dominique. Il avait des mains d'une finesse admirable. C'était une des sœurs, pas une sœur selon la chair et le sang, mais une sœur dominicaine qui avait remarqué les mains de Saint-Dominique. C'était ça, elle ne dit pas son regard. Ses mains, ça fait partie de la figura. Et les pieds aussi. Ça fait partie de la figura. Les acteurs grecs, on voyait qu'ils étaient particulièrement émus quand on voyait les doigts de pied qui bougeaient. Alors c'était la figura, elle est jusque-là. Et les doigts de pied montraient la figura. La démarche, la manière dont quelqu'un marche, ça fait partie de la figura. Si quelqu'un écrit avec la main droite ou la main gauche, ça fait partie de la figura. Ça fait partie de la figura. Une manière d'être, une manière de se traduire. Ça, c'est objectif. Parce que vous ne regardez pas la figura de quelqu'un en fonction de votre figura. Non. Il y a là une objectivité très grande. C'est très, très curieux. Vous voyez, c'est pour ça que je ne peux pas distinguer, voir la note individuante de quelqu'un par les qualités intérieures. Impossible. Les qualités intérieures, je les découvre à partir de moi-même. l'intelligence, sa capacité d'aimer, ses vertus. Je découvre à partir de moi-même, dans un jugement par connaturalité. Tandis que la figura ne se distingue pas par connaturalité. Absolument pas. Ah, je peux ajouter, cette physionomie m'enchante. Elle est merveilleuse. Alors là, vous portez un jugement de valeur qui, lui, va impliquer une certaine connaturalité. Ça, c'est vrai. Mais la figura comme telle, et quand vous poussez la figura, vous regardez l'originalité. Et donc l'originalité, c'est quoi? C'est l'individualité. L'individualité de quelqu'un, c'est son originalité poussée à l'extrême. Et ça repousse sur la figura. Je crois que c'est la figura qui montre le mieux l'individuation de chacun. C'est la détermination, la physionomie d'un être, la physionomie d'un paysage. Sa figura, que vous abîmez, c'est vrai, on peut abîmer un paysage, hein. Quand vous faites passer une autoroute, ben vous abîmez un paysage, alors on voit très bien, le bulldozer abîme et change le paysage, constamment, ça le fait varier, et la construction de certains immeubles, toujours les mêmes, défigure. Un paysage qui avait son originalité. Et par une construction toujours la même, vous supprimez cette figura. Alors qu'au contraire, quand vous pouvez construire quelque chose d'une manière telle que ça respecte la figura, la construction ajoute quelque chose à la figura, mais ne le défigure pas. C'est très curieux ça, il faut réfléchir là-dessus pour essayer de comprendre ce que c'est que l'individuation. Un problème très très délicat, mais très intéressant, comment la substance se donne à moi dans une individuation, dans une figura, dans une manière d'être. Alors la figura, qu'est-ce que ça implique? La figura implique des déterminations, des qualités, et... J'allais presque dire, la figura implique comme une synthèse de qualité. La physionomie d'un être, je peux l'analyser, mais c'est pour ça que je peux en faire une caricature. La caricature consiste à saisir immédiatement l'élément qui fait la synthèse de la figura. Une bonne caricature, c'est ça. Je mets en pleine lumière ce qui, de fait, fait la synthèse de sa physionomie. Pour certains, c'est leur nez. Pour d'autres, c'est l'œil. Pour d'autres, c'est la main. Vous montrerez tout de suite la présence d'une personne par la main. Ils comprendront tout de suite. Le doigt de Dieu. C'est une espèce de caricature, vous voyez, symbolique qui exprime le doigt de Dieu, le bras de Dieu. C'est très important de saisir comment la figura implique une synthèse et comme dans toute synthèse, il y a un élément dominant que je peux mettre en lumière. Cette synthèse des qualités repose sur la quantité. Et dans la figura, la quantité n'est pas seulement un conditionnement. La quantité joue un rôle de détermination. Et ça, je ne peux pas nier que dans la figura, la quantité joue un rôle de détermination. Ce n'est pas seulement conditionnement. Surtout dans la démarche. Si vous êtes grand et mince, très très mince, et comme un parapluie qui circule, tu vois. Alors vous voyez tout de suite, hein, si au contraire vous êtes un cèdre très grand, une armoire ambulante, avec des petits trous, n'est-ce pas? Alors vous voyez tout de suite, ça fait quelque... Alors la quantité détermine, ce n'est pas du tout un conditionnement, ça détermine la figura. Et ça détermine profondément la figura, de sorte que je peux par là arriver à comprendre que l'individuation, c'est la quantité... mesurer, c'est la quantité qui permet à un être de se distinguer d'un autre. C'est la quantité qui divise. La première division se prend de la quantité, au point de vue philosophique. On comprend ça tout de suite pour une tarte. Quand vous divisez une tarte, évidemment, vous voyez que la quantité, ça joue beaucoup, n'est-ce pas ? Et que c'est ça qui divise la tarte. C'est, on ne divise pas de la même façon une grande tarte destinée à 20 personnes ou une petite tarte destinée à 2 personnes. Qualitativement, vous pourrez préférer la petite. Quantitativement, vous voyez que tout de suite, la division, c'est de l'ordre de la quantité. Et la division joue dans l'individuation. Je me sépare des autres. Je suis divisé des autres. Et j'ai mon originalité. Vous voyez que tout de suite, le point de vue de l'individuation, c'est la quantité fondamentalement et une quantité qui demande de s'exprimer de telle ou telle manière. Et alors, qui s'exprime dans une figura, qui s'exprime à travers des qualités unifiées par la substance. La figura, c'est la manifestation visible de la substance. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie.